Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous accueillons Gringe qui vient nous parler de son livre « Ensemble, on aboie en silence » publié aux éditions HarperCollins. Donc déjà, merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux pour cette rencontre. Donc bienvenue à Gringe.
Merci de m'accueillir.
Première fois chez Mola.
Pardon ?
Première fois chez Mola.
Première fois chez Mola, ouais. Et pas déçu du voyage. Incroyable librairie labyrinthique. Ouais, c'est fou comme lieu.
Alors, on vous accueille aujourd'hui pour ce livre, Ensemble, on aboie en silence. On vous connaît déjà en tant que rappeur, avec Orelsan notamment et les Casseurs Flotteurs, mais aussi avec votre album solo. On vous connaît également en tant qu'acteur dans la série Bloqué ou dans le film Comment c'est loin, par exemple. Et aujourd'hui, vous avez publié un livre sur votre frère, Thibaut, et sur sa pathologie qui est la schizophrénie. Vous aviez déjà fait une chanson qui en parlait, Scanner. Et ma première question va être, pourquoi en faire un livre ?
Les thunes. Quoi d'autre ? Pourquoi en faire un livre ? Parce que l'année dernière, alors effectivement, il y a un morceau Scanner qui aborde le sujet de la schizophrénie, qui parle de la pathologie de mon frère sur mon album Enfant Lune, que je suis parti défendre une année quasi entière l'année dernière, au terme de laquelle on m'a proposé Vagram Livre et HarperCollins, qui sont deux maisons d'édition, qui s'étaient concertées, sont venus me proposer une espèce de carte blanche d'écriture, en partant, si je le souhaitais, de ce sujet-là, de la schizophrénie de mon frère, parce que le morceau, je pense, les avait touchés ou avait une certaine résonance chez eux. Et puis, parce que dans une interview, je parlais un peu du fait que mon frère écrive, lise beaucoup, et qu'un jour, ça me plairait possiblement d'écrire un bouquin avec ou sans lui, quoi. Donc là, l'occasion se présente et je saute dessus.
Et donc, est-ce que vous auriez eu l'idée d'écrire quelque chose sur votre frère, sur votre relation, s'il n'y avait pas eu l'appel de cet éditeur ?
Non. Non, non, clairement pas. Et surtout que c'est rarement, comment dire, c'est rarement clair dans mon esprit. C'est rarement défini, quoi. Quand je m'embarque sur un projet, l'album solo, c'était une suite un peu logique. Et, j'en parlais un petit peu aux gens qui me suivent et qui suivaient les casseurs. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire derrière. Et là, pour dire la vérité, j'avais rien de prévu, rien d'enclenché. Je me sentais un peu tari même. J'avais plus trop, enfin voilà, en termes d'énergie et tout, j'étais vidé. Du coup, non, ça, c'est arrivé un peu comme la providence, quoi, qui m'envoie ces gens et cette proposition de projet. Mais je pensais pas écrire sur mon frère. Enfin, en tout cas, je pensais plus aborder de sujets aussi personnels que sur certains morceaux dans certaines chansons de l'album, et encore moins la schizophrénie de mon frère, quoi.
Et donc, le projet arrive, on vous propose d'écrire un texte. Et tout de suite vient la nécessité de convaincre Thibaut. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette entreprise. Il y a la peur de son refus, lui qui n'arrive pas trop à laisser les autres entrer dans son intimité. Comment le faire devenir le protagoniste d'un livre ? Donc, vous avez dû passer par cette phase-là, de le convaincre, d'aller le voir.
Ouais. Toujours l'année dernière, avant que je me mette à écrire en décembre. J'ai commencé à écrire le livre en décembre et j'ai dû finir de l'écrire fin avril, je pense. Et du coup, on a les premières discussions autour du livre, elles arrivent entre septembre et novembre, quoi. Il y a un truc où toutes les choses se mettent en place, où je rencontre les gens. Et je sais déjà que la première étape va être celle de devoir convaincre mon frère avant de me mettre à écrire. Parce que je le sais, très pudique sur sa vie, déjà de sa nature, quoi. Encore plus concernant sa pathologie. C'est quelque chose qui laisse peu filtrer. Il vit très à l'écart aussi des gens. Et puis par rapport à l'écriture, c'est quelque chose qu'il n'avait plus pratiqué depuis des années et trop sacré pour lui, pour pouvoir se relancer comme ça sur un coup de tête juste parce qu'il y a une avance à prendre. Donc c'est quand même un de mes arguments. À un moment donné, je lui dis, il y a un avaloir, un truc qu'on peut se partager à deux, et c'est valorisant pour toi, enfin, et pour moi aussi. On touche un salaire entre frères, on est payé pour un job, et je trouvais l'idée chouette, quoi. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que je le... que je le vois, que je le travaille au corps, même que je lui fasse un espèce de que je le mentalise dans tous les sens pour qu'il finisse par céder, que je le rassure beaucoup évidemment. Et donc, je suis, avant l'annonce du confinement, je suis descendu plusieurs fois dans le sud, il vit à 7, à côté de Montpellier. Je suis descendu l'interviewer, en fait, voilà, avec mon dictaphone. Et je lui ai demandé de me raconter. J'avais préparé une liste de questions. J'avais besoin qu'il me raconte ses voyages. Parce qu'il a beaucoup voyagé, surtout après les premières années de l'apparition de sa pathologie. C'est là qu'il a vécu les trucs les plus dingues, et qu'il a eu les visions les plus saisissantes, qu'il a ressenti des choses les plus fortes. Et c'est de ça dont je voulais qu'il me parle, pour pouvoir, moi, broder à partir de ça et produire le gros du récit littéraire, quoi. Parce que c'est à la fois un récit littéraire à partir de ses témoignages, et c'est aussi un bouquin sur ce qu'est la schizophrénie, ce que je pense avoir compris de la schizophrénie.
Est-ce que ça vous a fait peur pendant l'écriture de voir qu'il hésitait ? Parce que vous avez souvent dit en interview que... il avait besoin de lire chaque phrase, de valider chaque paragraphe.
À la virgule près, ouais.
Ouais, et cette épée de Damoclès, ça vous a pas fait peur qu'à un moment
il dit stop ? Tout le temps. Mais c'était en même temps, c'était hyper stimulant. Je me disais, ça se trouve, je vais faire 3 mois d'écriture pour rien. Il va débouler un beau jour, il va m'appeler en me disant, en fait, je récupère tous mes trucs, j'ai plus envie que tu parles de moi. Enfin, c'était. Ouais, je l'ai vraiment eu. Comme, c'est vraiment l'image de l'épée de Damoclès, quoi. Et donc c'était, j'avais un double dose de travail, quoi, de discipline à la fois sur le travail et sur le fait de devoir assurer mon frère en permanence et parfois de le couiller un peu. C'est-à-dire que je lui envoyais des fragments les plus soft, on va dire, quand ils étaient corrigés qu'ils étaient le plus éloignés de lui ou en tout cas des moments un peu, enfin de cette quand ils étaient suffisamment loin de des moments les plus pénibles qu'on a pu vivre ou que lui a pu subir, la sismothérapie ou, par exemple, je lui faisais lire tout ça, quoi. Et je me gardais de côté les fragments les plus durs, tout en sachant qu'il les découvrirait à la sortie du bouquin et que ça pourrait être un motif de... il aurait pu me le reprocher ou vouloir couper les ponts. Enfin, il est radical, quoi, mon frère. Et comme là, il m'accorde sa confiance, je sais que je n'ai pas le droit de jouer avec ça. Et en même temps, il y a des sujets qu'il faut que j'aborde de manière impérative. Il faut que les gens sachent comment ça se passe. Et il ne me l'a pas reproché, quoi, au contraire. À la sortie du bouquin, il l'a lu et il m'a dit qu'il avait trouvé ça... J'avais su trouver la juste distance.
Mission accomplie, alors ?
En tout cas,
pour lui,
de notre côté, ouais, de notre côté, ouais, ouais.
Et est-ce que écrire ce texte, donc c'est, vous connaissez, enfin, vous avez énormément de souvenirs avec votre frère, vous avez fait beaucoup un travail d'enquête assez fou pour connaître des anecdotes de ses voyages, etc. Vous êtes rentré dans son monde qu'il laisse pas forcément accessible. Est-ce que ça vous a permis de découvrir une autre vision, une autre facette de lui ? Est-ce que vous avez appris des choses sur lui, sur vous, sur votre relation ?
Ouais, forcément. Après, on se connaît quand même, on est très très proches. Donc il y a peu de choses que j'ignore de Thibaut. Là, il y a quand même quelques... Je pense que c'est comme dans tout projet, quoi. C'est après avoir décoffré tout ça, je commence à digérer un peu ce que je viens d'écrire et ce qu'il a fallu que je transite pour récupérer mes infos. Ouais, ça me renseigne davantage sur mon frère et sur ce, enfin vraiment sur l'aspect, enfin sur sa schizophrénie, quoi. Toutes les choses qui étaient difficilement perceptibles de l'extérieur, qui filtraient pas, dont il faisait attention de. Et quoi, par exemple, voilà, il y a une richesse. Je l'explique dans le livre, mais il y a, par exemple, il a tout un espèce d'imaginaire peuplé de symboles, d'entités. J'avais grillé déjà à des moments. Je sentais qu'il, quand il s'adressait. Aux mêmes voix, ou quand je tombais sur ses dessins, ou des feuilles volantes raturées de quelques-uns de ses écrits, je voyais bien qu'il y avait des symboles, des mots qui revenaient un peu tout le temps. Et donc, je comprenais que ces entités-là, ils vivaient avec, quoi, de manière très concrète. Là, quand il m'en parle pour les besoins du livre, il a fallu qu'il aille un peu plus en profondeur dans ses témoignages. Et D'abord, je suis très content parce que il me fait confiance. Et la relation de confiance qu'on a établie depuis l'apparition de sa pathologie, hein, on est très soudés. Je suis une des rares personnes qui l'accepte dans sa bulle et dans son cercle et à qui il peut se confier. Même si ça reste par bribes d'informations, il me les file et il sent que je n'ai pas de regard juge sur lui. Donc je pense que, en tout cas, cette expérience-là, elle achève de souder notre relation et elle la renforce davantage encore, quoi. Et puis je sais ce que c'est que la schizophrénie. Il n'y en a pas une qui se ressemble, mais celle de mon frangin, je sais comment elle est apparue, par exemple, quoi. Et ça, c'est pareil.
Oui, et puis au fil des années, vous avez dû aussi vous adapter ou en tout cas comprendre comment maintenant telle réaction de sa part veut dire telle chose.
Pas spécialement, et, c'est difficilement anticipable. Non, ouais, parce que c'est il y a une pudeur de toute façon par rapport à tout ça, quoi. Mais je comprends mieux, effectivement, peut-être ces bouffées d'angoisse délirantes. Je comprends peut-être mieux à quel moment je dois le laisser un peu tranquille, même si c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis pas du genre à vouloir remplir les cases avec du vide ou les silences en discutant. J'ai toujours été respectueux de son mode de fonctionnement dans sa schizophrénie de sa volonté de parler ou de rester justement mutique. Donc peut-être que je m'adapte un peu mieux, effectivement. Mais je suis surtout renseigné sur notre histoire et sur l'apparition de ces symptômes, quoi. Je savais pas comment ils étaient nés, comment ils étaient apparus jusqu'ici, quoi. Et j'ai rencontré un spécialiste en biologie moléculaire à l'hôpital Sainte-Anne de Paris avec qui j'ai longuement discuté et j'ai compris comment... quels étaient les facteurs qui pouvaient faire naître une schizophrénie ou c'est ce que j'explique dans le bouquin, quoi. Faciliter une entrée dans la maladie. C'est des choses cruciales à savoir, quoi, pour l'entourage. C'est important que je me renseigne et que je comprenne.
Il y a encore énormément d'idées reçues sur les maladies mentales, sur la schizophrénie notamment. Donc effectivement, par exemple, Thibault, vous le dites, il a des hallucinations auditives, mais toutes les schizophrénies ne sont pas les mêmes. Pour vous, c'était important de montrer que c'est l'expérience de votre frère et ce n'est pas représentatif de toute la schizophrénie, quoi.
Alors ça, je ne l'explique pas dans le bouquin. Effectivement, quand on lit le livre, on peut se demander si ce que je raconte de la schizophrénie de Thibault, c'est pas ça, la schizophrénie. Je ne dis pas qu'aucune se ressemble. Parce que je continue en plus de comprendre. Du coup, chez Thibault, ça s'est traduit par des hallucinations visuelles et auditives dès le début, très fortes. Visuelles, surtout, c'est ce qui me choquait le plus. Et du coup, ses réactions, lui, quand on était en famille, enfin avec mes parents, quand on vivait encore sous le même toit, c'était nos rares moments ensemble de chantonner à voix basse pour s'empêcher de penser trop fort, pour endiguer un peu le flux de voix qui lui parvenait et se concentrer un minimum sur nos moments de vie ensemble. Mais c'était, enfin, voilà, c'était une mission impossible, quoi. C'était les premières années, en plus, il était au climax de ses symptômes et je pense qu'il j'en parle dans le bouquin aussi, il était victime du phénomène d'insight, quoi. Donc il n'avait pas conscience en plus de ses symptômes. Et il faisait le trajet entre sa réalité, la nôtre, en étant juste, je pense, livré à ses émotions et sans intellectualiser, sans pouvoir avoir de recul là-dessus. Il est sorti de ça au bout de plusieurs années. Il a commencé à prendre conscience de sa singularité, de sa différence et de ses symptômes. De conscientiser le fait qu'il pouvait aussi gérer avec ça, convoquer ses voix, les éloigner quand il en avait envie, quand il se sentait trop fatigué. Voilà.
Il y a un très beau passage sur votre mère dans le livre, sur les mots qu'elle utilise quand la pathologie s'installe, quand il faut vivre avec, être un proche de la personne qui est schizophrène. Il y a des très très beaux passages sur ça, mais pour vous, est-ce que la plongée dans les souvenirs d'enfance, sur la découverte de la pathologie, est-ce que ça a été un exercice qui a été difficile dans l'écriture du livre ou c'est quelque chose que maintenant vous avez...
Non, bizarrement, ça l'a moins été sur le bouquin. C'était très pénible sur l'album, sur Enfant Lune, notamment quand j'écris Scanner. Là, je dois vraiment y aller, le faire en plusieurs étapes, essayer de me replonger dans mes souvenirs, mais au plus proche des souvenirs pour pouvoir ressentir les sensations de l'instant et écrire quelque chose d'urgent, quoi. Donc ça a été un truc qui a été chronophage en termes d'énergie, qui m'a pompé en termes d'émotion. Et puis je suis pas synthétique généralement, quoi. Je mets vachement de temps et je tourne hyper au-dessus, très périphérique quand j'écris, sauf sur des sujets très précis. Et là, le bouquin, ça a été un des enjeux principaux du livre, c'était de devoir le rendre fin avril pour pouvoir participer à la rentrée littéraire. On voulait que chez HarperCollins et Vagram Livre que je participe à la rentrée littéraire. Donc il fallait que quoi qu'il arrive, que je rende mes écrits. J'avais une date butoir et je me voyais pas y arriver, quoi. J'avais 4 mois, en gros 4-5 mois d'écriture quotidienne. Il a fallu que je me discipline, mais un peu j'ai basculé un peu dans un mode militaire, quoi. C'était mais comme d'habitude quand j'écris, je pense jusqu'à me rendre un peu taré parfois, quoi.
La chanson Scanner, elle est très très anxiogène. Et le livre, pas du tout. Le livre est très solaire. Enfin, comment vous expliquez cette différence d'émotion entre ces deux textes, ces deux objets d'art, quoi ?
Parce que je pense que j'ai eu le temps de digérer l'album et que je ne suis pas fan de mon album. C'était un laboratoire au moment où je l'ai fait. Sans trop comprendre ce que je faisais, il fallait que j'évacue des choses. Et avec le recul, je me suis dit waouh, il est quand même linéaire à certains endroits. Il se répète, quoi, dans certaines thématiques. Et puis dans cette espèce de mood très dark que j'étale tout du long. Il y a pas d'espoir, quoi. J'ai l'impression que en réécoutant les morceaux, c'est sans espoir. Et je voulais plus ça. Je pense que le bouquin m'a aidé aussi à me sentir mieux, à me délester d'un certain poids. Et puis, de toute façon, je le voulais plus léger à des moments. C'est ce que permet l'écriture d'un bouquin, c'est qu'on n'est pas obligé d'adopter un même ton tout du long. On peut, mais là, je me suis dit, super, j'ai la liberté de pouvoir varier les tons, de temps en temps, de balancer un fragment un peu plus drôle ou plus léger, ou justement pour aussi... créer un équilibre pour que les moments pénibles du bouquin ou durs à lire le soient un peu moins, quoi, à l'arrivée.
Il y a beaucoup de ruptures. Déjà, les premiers mots, c'est il y a une avance, donc elle est une enjeu. Il y a ce truc un peu drôle, on se dit bon, ça le motive. Et après, il y a plein de ruptures dans le texte. Donc effectivement, ça permet d'alterner toutes les émotions qu'on peut vivre, quoi. Mmh. Donc c'est assez important. Et finalement, le texte reste très solaire, quoi. Sur l'ensemble, c'est très solaire comme texte, quoi.
Ouais, je suis content de l'entendre. Parce que je suis jamais trop de recul sur ce que je fais. Puis là, je commence à peine. Et c'est ce que je voulais, quoi. Vraiment, je voulais... Puis j'ai suffisamment lu ou entendu dire que j'étais... j'étais dépressif, j'avais une écriture anxiogène. Ce qui n'est pas faux, hein. Sur ce que j'ai présenté de mes trucs solo, ça a toujours été très comme ça. C'est quelque chose que je souhaite un peu moins entretenir, quoi. Cette espèce de réflexe, cette image, en tout cas, dans laquelle je ne vais pas m'installer, c'est de mec romantico-torturé, à l'écriture dépressive. C'est sympa sur quelques morceaux, mais ça y est, c'est bon. Je pense qu'il y a les morceaux qui sont les morceaux pivots de l'album, sont Pièces détachées ou Scanner, ou Jusqu'où elle-même, où il y a des morceaux qui étaient importants pour moi d'écrire. Et maintenant que c'est fait, je peux essayer d'apprendre à être un peu plus heureux avec moi-même.
Oui, bah après, l'art fait pour ça aussi. C'est un côté un peu thérapeutique, quoi. Maintenant, le prochain album sera Rire et Chanson, quoi.
Ouais, ça, on peut aussi. Ou le prochain bouquin sera un espèce de roman harlequin, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je crois que j'en ai fini avec ça. Et je ne sais pas à quoi ressemblera le prochain projet en plus. Il y aura toujours de l'écriture, ça me semble évident, mais ça m'a plu. C'est la première fois que je me sens libre en écrivant, à ce point en tout cas.
Et j'avais une question justement sur ça. C'était donc le texte est une sorte de commande par l'éditeur. Vous vous prêtez au jeu, mais vous êtes. Enfin, est-ce que ça va être un objet littéraire unique ou est-ce que dans les futurs projets, il y a écrire un nouveau livre ou pas du tout?
Si, oui, parce que c'est comme les premières fois où je me retrouve à jouer la comédie au cinéma. Je me sens bien, à ma place. Puis c'est des rencontres chez Harper et chez Wagram Leaf, quoi. C'est des rencontres, c'est deux maisons avec des gens formidables et où je me sens accompagné, je me sens appuyé, je me sens compris, à ma place. C'est des gens qui m'aident à être à ma place. Et c'est toujours la question que je me pose d'un projet à l'autre, c'est où est-ce que j'ai envie d'être maintenant ? Où est-ce que j'ai envie d'être ? Et c'est pas, il suffit pas de le dire. Il faut avoir la chance après, et pour l'instant je l'ai, c'est de faire les bonnes rencontres. Donc il y aura certainement un bouquin, mais quand un sujet me sera paru évident, sous quelle forme je l'ignore, je ne sais pas si ce sera un roman. Si jamais c'est d'aventure, si c'est un roman, enfin, je sais maintenant qu'il faudrait que je lise énormément. Je suis trop, pour l'instant, je suis trop lacunaire, quoi. Je suis un lecteur hyper passif, je chope que ce qui m'intéresse. Ça m'arrive, enfin, je vais toujours à la Fnac. Et je chope des bouquins, je sais pas, des fois je les ouvre, et il suffit que je tombe sur un paragraphe qui m'interpelle ou une quatrième de couverture qui me plaise ou juste une jolie couverture. Je suis capable de ramener 15 bouquins chez moi et de ne jamais les ouvrir. J'en ai plein comme ça.
Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul, je pense, à la faire.
Ouais, et puis il y a le choix chez vous en plus. Moi, ce sera
c'est ça.
Y en a le bordel pour moi chez moi là.
Vous allez vous balader un peu après.
Ouais, c'est bien.
L'écriture d'un livre à la place de ce qu'on nous on connaît de vous, c'est surtout les textes de rap. Et finalement, l'exercice vous a bien plu, manifestement. La chanson pouvait pas tout dire, surtout faire une chanson gay non. Ou solaire sur Thibaut, c'était pas
chanson
possible.
Chanson gay sur Thibaut. Bah si, On a beau en silence, elle l'est un peu plus, quoi. Mais c'est une chanson sur la. Sur la fraternité, sur notre relation de frère à frère, débarrassé du poids de la maladie, une déclaration d'amour à mon frère. Mais le bouquin, c'est aussi ça. C'est une manière de lui rendre hommage à lui, quoi, son courage, sa force de caractère, dans la durée, sa constance, malgré les épisodes hyper houleux qu'il a traversé, quoi. J'ai complètement oublié ta question, s'il y en avait eu.
La question n'était pas notée, en plus, complètement improvisée, donc... voilà. Non, c'est pourquoi une chanson gay sur Thibaut. Oh. Mais il y a la déclaration d'amour qu'on sent tout au long du texte, qui est vraiment... Il y a tout ce moment au début du texte sur les bébés antithèses, où il y a tout ça, où il y a vraiment cette relation de fraternelle qui est au centre du livre, encore plus que finalement sa pathologie.
Mmh. Ouais, de toute façon,
c'est assez chouette à voir. En fait, c'est pas que mon frère est malade, mon frère.
Ouais, mais je voulais pas faire le zoom que là-dessus, heureusement. D'ailleurs, dès le départ, ça a été dans le contrat moral, quoi, entre moi, les gens de chez Harper et Wagram. C'est pas question que je fasse un bouquin médical sur la schizophrénie de Thibaut et de faire de lui un objet d'analyse, quoi, médical. C'est ce que je dis d'un moment. Je dis généralement ce que font les gens quand face à quelqu'un de malade ou de, on a tendance à ne le voir plus que par son symptôme, qu'à travers son symptôme. Et je dis c'est dangereux parce que ça le dépossède de sa personne, de son identité et de son histoire. Et l'histoire de Thibaut, elle est suffisamment riche et folle, sans se figurer du terme, pour que je puisse la raconter, quoi. Donc voilà, ça c'était... Mais il fallait quand même que je renseigne aussi sur la schizophrénie. Mais c'est important justement d'avoir Thibaut à mes côtés. Sans lui, j'aurais pas pu le faire et j'aurais pas souhaité le faire. Pour pas le... Comment dire
Il y a un besoin de pas le trahir, quoi.
Pas seulement, il y a aussi un besoin de pas m'improviser expert ou... sachant que c'est un sujet grave, un sujet lourd et qui touche énormément de gens et de familles. Et donc, il n'était pas question que je dise, voilà, moi, ce que c'est de la schizophrénie, c'est ça. C'était à lui, c'était plutôt à Thibaut, je pense, de nous faire vivre de l'intérieur ce à quoi ça peut ressembler chez lui. C'était plus intéressant.
Bah déjà, de se montrer comme le saint des saints qui sait absolument tout sur la schizophrénie, alors que vous êtes ni médecin, ni...
Et même les médecins que j'ai rencontrés.
Les médecins,
hein,
voilà, en plus.
Ils savent pas, oui. Évidemment qu'ils sont renseignés sur la question, mais ils peuvent pas... Il n'y a pas de vérité absolue.
C'est très large,
quoi.
Donc c'est encore très compliqué.
Il y a rarement de vérité absolue. En génétique, il y en a quelques-unes, en imagerie aussi, mais les psychiatres que j'ai rencontrés en accompagnant Thibaut de temps en temps, pendant ses 15 années, son parcours psychiatrique, des fois, il y a des... des gens, des psychiatres qui se drapent d'une espèce de posture toute puissante, sans véritablement savoir ce qui se passe. Et on le voit bien dans la manière de médicamenter les gens qui souffrent, quoi. On est toujours sur des antipsychotiques et des traitements lourds et on traite le symptôme et jamais le on peut pas encore traiter le fond du problème parce qu'on sait pas comment faire.
Oui, faut accepter en plus de pas savoir, de tâtonner un petit peu tout le temps, quoi. Enfin,
aller à la pêche aux infos, se manger des refus, se manger des gens qui ont pas le temps, des médecins moins impliqués que d'autres. Ouais, c'est le lot des familles qui accompagnent des gens qui souffrent de la schizophrénie. Ça a été notre lot, ça a été celui de ma mère surtout. Et puis voilà, grâce à ce livre, il y a aussi des associations que je rencontre, de gens que je rencontre qui m'ont l'air bienveillants. J'ai rencontré des gens qui étaient aussi très dans la récupération du phénomène et qui me demandaient de venir être la devanture d'un truc qui me plaisait pas, que je trouvais pas sain. Et d'autres, au contraire, il y a des associations. Moi, je suis parrain d'une petite association qui vient juste de naître, qui s'appelle la Maison Perchée. Et puis, il y a des associations comme l'UNAFAM, par exemple, qui documentent et qui accompagnent les accompagnants de gens malades. C'est des entités nécessaires, quoi. Nous, on a tout fait au jour le jour, je parle de moi et des gens de ma famille, quoi, et en explosant parfois, quoi, en s'éloignant les uns des autres. Mais ça a été un long apprentissage. Aujourd'hui, on embrasse enfin une petite période d'accalmie où Thibaut gère tellement mieux sa pathologie qu'on est tous aussi soulagés, quoi.
Et puis ça dépend de tout le monde en plus.
Il y a des gens qui franchissent un point de non-retour, il y a des gens qui marchent sur le fil toute leur vie avec cette pathologie, ce qui est le cas de Thibaut. Je pense qu'il, de toute façon, il devra composer avec les traitements toute sa vie, mais il est capable de vivre de manière... Et puis voilà, vous l'auriez en face à face, c'est pas marqué sur son visage, quoi. Il y a des gens qui trahissent, des gens qui ont les symptômes tellement installés. Thibaut, c'est pas le cas. Voilà, il y a des gens qui vivent avec une schizophrénie. J'ai rencontré des gens. J'ai le grand frère d'une ex-copine à moi qui est schizophrène. Je l'ai su il y a pas longtemps. Et j'ai appris qu'il venait d'être papa, par exemple. Donc on peut vivre avec ça. C'est pas simple.
Non, c'est pas simple, mais c'est pas impossible, quoi. C'est ça que je trouve. Le livre reflète très bien tout ça, quoi. On a une image de la schizophrénie, des maladies mentales ou des gens qui deviennent fous, des gens violents, des choses comme ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. Et au moins, dans le texte, il y a vraiment Thibaut paraît très calme.
Il l'est, ouais, il vit tout de manière hyper intériorisée, donc il l'est. Il est calme, c'est pas un excessif, c'est pas un violent, mais ça, c'est une idée reçue, quoi. La seule fois où Thibaut a été violent, c'est quand il a décompensé après sa sismothérapie, parce qu'on l'a collé en HDT, c'est-à-dire qu'on l'a foutu dans un endroit clos, capitonné, on l'a sédaté, on l'a shooté pour qu'il se calme, parce qu'il venait de manger des séries d'électrochocs et qu'il est en train de péter un plomb. Mais je l'ai jamais vu violent, avant, pendant, maintenant. C'est quelqu'un de, au contraire, qui est très réfléchi, qui est très sensible et qui chope ça chez les gens en plus. Et je dis, mon frère, il a la vérité dans l'œil, quoi. Tu mets quelqu'un, tu te scannes une personne en temps réel en très peu de temps, et il sait. Donc il se rétracte s'il sent quelque chose de malveillant, et au contraire, il s'ouvre. Mais ouais, l'idée qu'on se fait des maladies mentales et des gens qui souffrent de maladies mentales, c'est souvent une idée fausse, quoi. Et elle est renforcée par tout ce qu'on peut voir. Je en parle en ce moment, mais dans les films, la culture pop, les films, les séries, c'est souvent des gens déjantés. Quand on parle de gens en asile psychiatrique, c'est des déjantés, c'est des sociopathes, des violeurs violents, qui ressentent aucune empathie, aucune douleur à faire le mal. Et on dit en plus généralement, c'est dans le langage courant aussi ça, commun, quoi, c'est de dire mais t'es schizo, mon gars, quoi, tu pars en couille. Tu vois, en plus on associe à des variations de comportement, d'humeur, de tempérament, on peut dire à quelqu'un qu'il est schizo, ou à des coups de folie passagers, quoi, t'es schizo. et on confond avec l'autisme en plus. Enfin, il y a tout un tas de trucs, on met tout dans le même sac. Et c'est important de nommer les choses. C'est pour ça que c'est important de le faire, quoi, surtout.
Alors, merci beaucoup.
Merci
d'avoir parlé du livre, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci.
Merci. Merci à vous.